RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence. C'est la dernière émission de l'année, une émission que nous enregistrons ce jeudi matin, alors que chacun retient son souffle, et en particulier le monde de la culture. Et vous ? Eh bien vous, vous nous écoutez avant ou après les résultats de ces élections. Alors on se posera une question. Est-ce que ça existe, les happy ends ? C'est quoi une fin heureuse ? Et vous verrez, au cinéma, en littérature, en chanson ou en art plastique, c'est comme en politique, c'est pas forcément évident de trouver comment boucler une histoire de façon joyeuse. Et pourtant, c'est possible, ça existe, et on essaiera de vous le prouver. Voilà, une émission qui cultive l'optimisme pour terminer cette troisième saison d'Effervescence. Il y en a un qui vient de tourner la page une dernière fois, un très grand monsieur, un géant de la littérature européenne, c'est l'écrivain albanais Ismaël Kadare. Il est mort lundi, à l'âge de 88 ans, et nous évoquerons sa vie et son œuvre dans la deuxième partie de cette émission, en écoutant Éric Faye, un écrivain français, compagnon littéraire de l'homme de lettres albanais. Et dans cette émission, nous retrouvons deux de nos chroniqueurs qui ont choisi de terminer cette année de façon joyeuse et apaisée, avec des chaises qui grincent. Guillaume Goubert, bonjour.
Bonjour.
C'est vous la chaise qui grince.
Je suis désolé.
Vous êtes l'ancien directeur du quotidien La Croix et vous êtes le chroniqueur Beaux-Arts pour la matinale RCF. Vous êtes allé visiter à Paris l'Institut Giacometti avec une exposition au titre surprenant « Ne pas parler de sculptures peintes », vous nous expliquerez. Et puis en clap de fin, vous êtes allé applaudir les comédiens du français qui s'amusent dans un spectacle musical « Quelle comédie ?». Ça a l'air jubilatoire. Éric Payet, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef de l'émission Le Jour du Seigneur sur France Télévisions. On peut découvrir cette semaine sur RCF le dernier numéro de Pas si simple, l'émission politique que vous présentez avec Étienne Pépin.
Et puis cette... Et Isabelle de Gomain.
Et Isabelle de Gomain, bien sûr. Et cette semaine, pour Effervescence, vous parlerez cyclisme. Oui, oui, le plus littéraire des sports à sa place.
Et ceux qui le connaissent sont très étonnés.
J'imagine. Et puis vous nous donnerez un avant-goût du nouvel album du rocker australien Nick Cave, dont la sortie est prévue pour fin août. Voilà, Éric et Guillaume sont fin prêts. Mais avant de célébrer la fin, il faut bien commencer.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Morceau emblématique des Doors. Ah oui, d'accord, difficile de voir là une fin heureuse, sorti en 1967 en pleine guerre du Vietnam. Ce titre, long de 11 minutes, a été enregistré en seulement deux prises, sans ajout d'instruments. La légende raconte que Jim Morrison, qui mourra d'une overdose à Paris le 3 juillet 1971, la légende raconte que Jim aurait enregistré ce morceau dans le noir, éclairé seulement par la lumière d'une bougie. The End, un morceau resté célèbre pour les cris de Morrison, chantant Oedipe, Father, I want to kill you, Mother, I want to... Ouais, alors pourquoi passer ce morceau dans une émission qui veut célébrer les happy ends ? Peut-être parce que la mort, surtout chez les artistes, n'est jamais tout à fait la fin, et que si Jim Morrison avait totalement rompu avec sa famille et son père en particulier, on peut peut-être écrire une fin plus belle à cette histoire tragique. Une fin où l'amour et le respect reprennent leurs droits, comme un signe que rien n'est jamais perdu. Ainsi, dans une interview publiée des années après la mort de son chanteur de fils, l'amiral George Stephen Morrison, ancien commandant des forces navales américaines lors des incidents à Tonkin, qui furent au déclenchement de la guerre du Vietnam, eh bien ce monsieur très digne, que tout opposait au chanteur engagé dans le mouvement contre la guerre, ce monsieur évoque la mémoire de son fils. Il salue sa fidélité à ses aspirations, ses valeurs morales et éthiques, et termine de façon bouleversante en disant que son fils était quelqu'un de bien, qu'il aurait aimé connaître. And all the children are insane. All the children are insane. Alors voilà, on est bien loin du « ils vécurent heureux » et « eurent beaucoup d'enfants », mais quand même, il y a une joie grave qui habite pour moi cette histoire. En littérature, les fins heureuses sont souvent réservées aux histoires pour enfants, aux contes de fées, version Grimm hein, plus que Perrault. Le petit chaperon rouge ne termine pas dans le ventre du loup, mais sauvé par un chasseur. Oui, mais si on édulcore tout, est-ce que ça sert encore à quelque chose de raconter des histoires ? Yeah. C'est vrai qu'on a un peu du mal avec les happy ends et particulièrement en littérature. On a même créé une catégorie hein, pour faire les histoires qui finissent bien. Ça s'appelle la littérature feel good. Et quand on crée une catégorie, on sait que c'est pour mieux la dénigrer. Alors vous, quand même, vous nous avez trouvé de la littérature qui finit bien parce qu'il y a quand même beaucoup de snobisme là-dedans.
Il y a beaucoup de snobisme, mais c'est vrai que quand vous avez lancé ce thème du happy end, je me suis dit, c'est pas facile. Et j'ai cherché un peu ce dernier plaisir coupable que j'ai pu avoir en me disant, allez, là, on va s'abandonner, en effet, aller sur une fin heureuse, quelque chose sur lequel, un roman dans lequel on va pas s'angoisser profondément. Parce qu'en effet, il y a quand même, comme vous disiez, une espèce de snobisme. Je sais pas, mais en tout cas, dans la littérature dite sérieuse, il y a quand même toujours l'idée qu'il faut terminer un peu sur une dernière note qui laisserait entrepercevoir l'étendue de l'âpreté de ce monde.
Pourtant, moi, je trouve que lire un livre, le sourire aux lèvres et finir le cœur léger, c'est quand même superbe.
Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, j'ai essayé de rechercher dans ma mémoire quand est-ce que j'avais ressenti ce plaisir coupable, comme je vous dis. Et ça remonte à de nombreuses années, mais sur un livre sur lequel je réouvre et que je conseille et que je transmets, qui est d'un roman de Steinbeck. Alors, vous savez, dans la littérature de Steinbeck, il y a deux grandes catégories. Il y a les romans sociaux, il y a les raisins de la colère, à l'est d'Éden, des souris et des hommes. Et puis, il y a une série de petits livres qui tiennent plus du conte. Alors, c'est marrant parce que vous en parliez à l'instant, justement. C'est les contes qui se permettent un peu le happy end. Et il y a La Perle, il y a Tortilla Flat, La Rue de la Sardine et Tendre Jeudi, qui est la suite de La Rue de la Sardine. Alors, je raconte rapidement l'enjeu de ce roman. C'est qu'on suit une petite communauté dans une petite ville en Californie, au bord de la mer. Et il y a un personnage qui est un scientifique, Doc, qui vit là dans son laboratoire marin, parce qu'il va ramasser des poulpes sur la plage pour les envoyer dans des eaux et autres laboratoire pharmaceutique. Et autour de lui, il y a tout un groupe, notamment de joyeux vagabonds, Hazel, Mac, voilà, qui vivent dans un palais et qui tirent profit de l'amitié qu'ils ont avec Doc pour lui shipper quelques bouteilles d'alcool. Mais tout ça, c'est rempli de tendresse, de bienveillance. Et dans ce roman, Tendre Jeudi, il y a l'apparition d'une figure innocente. C'est la jeune et jolie Susie qui est une prostituée, mais légèrement préservée par la maîtresse de maison parce qu'elle doit avoir un autre destin. Et le destin que toute la communauté voit, c'est que évidemment elle se rencontre et elle tire Doc de son état totalement neurasthénique grâce à une belle histoire d'amour. Et en fait, quand on parle de happy end, c'est-à-dire que dans ce roman, ce qui est fantastique, c'est qu'il est déjà annoncé dès le départ. Le titre, c'est Entre jeudi, et c'est toute une semaine. Alors évidemment, il y a des péripéties, on ne sait pas si ça va bien se passer, mais on se dit, ben, le titre, ça, c'est quand même Tendre Jeudi, normalement ça devrait bien se passer.
J'espère.
Donc je ne spoil rien, allez-y. Et c'est un roman formidable parce que il y a, comme je vous dis, c'est peuplé de vagabonds, de prostituées, de ce Doc qui revient de la guerre et qui est blessé. Alors évidemment, ça pourrait donner plutôt lieu à un roman social absolument terrible. Mais c'est de la poésie. Steinbeck en fait un conte, et de ce conte, c'est surtout la bienveillance, l'amitié qui ressort, et ça fait un bien fou.
Et ça s'appelle donc
Tendre Jeudi.
Tendre Jeudi. Alors au cinéma, qu'est-ce qu'un happy end ? Je mets de côté les Disney. Hein. Je me demandais si on pouvait parler de dénouement heureux avec Hitchcock. Bah oui, à la fin, généralement, les méchants sont démasqués et tout rentre dans l'ordre. Enfin presque, et on a beau trembler pendant tout le film, on a peur, mais on sait qu'à la fin, ça finira bien. Alors Guillaume, vous, Happy End, ça vous a fait penser à un autre style de film ?
Oui, c'est... en fait, j'étais un peu comme Eric, j'ai cherché dans ma tête, dans les livres, dans les films, etc. Et c'est vrai que c'est pas si facile à trouver un Happy End qui soit pas niaiseux, quoi. Je veux dire, vous savez, c'est la célèbre phrase qu'on vous sert toujours, on peut pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments, enfin, toutes ces choses. Voilà. Et en cherchant, j'ai fini par tomber sur un film qui date d'une quarantaine d'années, qui s'appelle Les Chariots de Feu, et qui parle des Jeux Olympiques de 1924, j'allais me tromper, des Jeux Olympiques de Paris de 1924. Donc je me suis dit, bah voilà, ça fait un clin d'œil à l'actualité qui nous attend. C'est un film qui raconte l'histoire de deux athlètes anglais. Alors c'est un film complètement anglais, je dois dire, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime ce film, parce que j'aime bien cette vision de l'Angleterre avec des belles architectures gothiques et de belles pelouses bien tendues. Et donc de deux athlètes qui sont étudiants à Cambridge et qui courent... Non, pardon, j'ai une bêtise. Il y en a un qui est étudiant à Cambridge, l'autre est écossais. Et on a de très beaux paysages de l'Écosse. L'un court parce qu'il est juif et qu'il veut en quelque sorte s'affirmer face à l'antisémitisme de son temps. Et l'autre court pour la plus grande gloire de Dieu. C'est un protestant presbytérien, si je me trompe pas, qui court parce que c'est une manière pour lui de rendre gloire à Dieu. Et voilà. Et ça se termine bien parce qu'ils gagnent tous les deux leur course.
We are here today to honor the legend. And remember those few young men. With hope in their hearts, and wings on their heels.
I can't wait.
Les Chariots de Feu, le choix de Guillaume Goubert. Vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume ? Non, juste, ça finit bien.
Oui, ça finit bien, et puis effectivement, ce sont de beaux sentiments, de belles motivations. Celui qui court pour Dieu veut pas courir le dimanche, alors ça crée tout un pataquès qui est assez compliqué à résoudre, et puis finalement, il court pas le 100 mètres, mais le 400 mètres, et d'ailleurs, en courant le 400 mètres, il permet à l'autre de gagner le 100 mètres. Voilà, non, c'est un très beau film, avec, on l'entend un tout petit peu en arrière de la musique de Vangelis, un très bel anglais, très très bien prononcé, enfin voilà. C'est un plaisir un peu désuet, je reconnais, parce que le film a quand même un petit peu vieilli, mais c'est un vrai plaisir.
Au cinéma, on aurait pu aussi évoquer L'Histoire sans fin, le film culte de nos années d'enfance, ou au contraire tous ces films avec deux fins possibles. Je vous parlais il n'y a pas si longtemps de La Belle Équipe, dont la fin, jugée trop violente par le Front Populaire de l'époque, avait été modifiée pour un happy end beaucoup plus mièvre. On aurait pu aussi évoquer le robot Terminator, mais je m'égare. Et comme on dit dans les jeux vidéo, il faut finir le game. Alors, une image pour évoquer la fin heureuse, comment illustrer un happy end? En fan de BD, je pensais à Lucky Luke partant seul dans le soleil couchant, avec la sérénité de celui qui a accompli son devoir. Et puis, on m'a soufflé Matisse. À la fin de sa vie, l'artiste était devenu impotent, plus possible pour lui de peindre. Il s'est donc mis à la technique des papiers collés et s'est aidé d'une assistante qui disposait sur la feuille ses petits bouts de papier qui donneront peut-être ses plus belles œuvres, marquées par la fragilité d'un homme et la fragilité d'une technique. J'aime bien cette idée qu'à la fin, ce n'est qu'avec d'autres que le beau est possible. Et pour terminer, une chanson sortie il y a 3 ans, au moment des premiers pas de cette émission Effervescence.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin, ne me lâche pas, je te tiens.
Et vous savez ce qui s'est passé le dernier jour du disco? Pourquoi tout d'un coup les pattes d'eff à paillettes ont semblé has-been? Eh bien, sur les transistors, un Jamaïcain a fait son entrée et Bob Marley a fait entendre son reggae. C'est fini? Mais non, je vous l'ai dit, tout commence.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Merci pour votre fidélité à Effervescence. C'est le dernier épisode de cette 3e saison. On se retrouvera en septembre pour de nouvelles aventures, mais on continue, il nous reste encore quelques minutes. Et on continue avec vous, Guillaume Goubert. Vous avez été à l'Institut Giacometti découvrir une exposition de sculpture de Giacometti, mais pas de sculpture tout à fait comme celle qu'on a l'habitude de voir de Giacometti, des sculptures peut-être un peu cachées.
Non, pas particulièrement caché. Non, c'est pas ce qui est le plus connu de son œuvre, parce que alors il s'agit de sculptures sur lesquelles il y a de la peinture. C'est parce que évidemment ce qu'on connaît le plus de Giacometti, ce sont ces sculptures en bronze, et notamment son homme qui marche, qui est une des plus fameuses et une des plus belles sculptures du XXe siècle. Il faut savoir que Giacometti, Alberto Giacometti, était à la fois sculpteur et peintre, et un très bon peintre, mais son œuvre peinte est moins considérée que son œuvre sculptée. Et en fait, quand il travaillait beaucoup avec du fil de fer et sur lequel il mettait du plâtre pour réaliser ces silhouettes très 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 allongées qu'on connaît bien, parfois, assez souvent, il rajoutait de la peinture. il mettait quelques traits, quelquefois, c'est pas du coloriage, sauf exception, c'est vraiment quelques traits de peinture, noir, rouge, brune, qui vraiment métamorphose ses sculptures d'une manière incroyable. Et en fait, l'expo porte un titre un peu étrange, ça s'appelle « Ne pas parler de sculpture peinte ». Et en fait, c'est parce qu'il ajoutait dans cette phrase qui est entre guillemets, il ajoutait « La couleur fait partie des sculptures ». Et effectivement, quand on voit les œuvres qui sont exposées à l'Institut Giacometti à Paris, c'est vrai que c'est magnifique de voir comment juste quelques traits de peinture modifient l'œuvre et les transcendent. Voilà.
Donc pour découvrir un nouvel aspect de Giacometti, c'est à l'Institut Giacometti, c'est où à Paris ?
C'est près du cimetière Montparnasse, dans un lieu qui est extrêmement joli. C'était l'atelier d'un peintre ou décorateur qui s'appelait Paul Follot. C'est quelque part entre l'art nouveau et l'art déco. Le lieu aussi est très charmant. Alors il faut savoir que ça ne durera pas parce qu'ils vont bientôt déménager sur l'esplanade des Invalides, dans l'ancienne aérogare Air France. Et voilà. Donc non, c'est une petite exposition.
On a compté jusqu'à quand pour la voir ? Fin juillet, c'est ça ? 25 juillet, je crois.
Non, jusqu'au mois de novembre.
Jusqu'au mois de novembre, voilà, l'expo Giacometti. Alors pour moi, il y a une saison pour les artistes. Il y a ceux qui s'écoutent l'été au retour de la plage pour danser, et il y a ceux qui sont plutôt grog au coin du feu. Et pour moi, Nick Cave, c'est clairement la deuxième catégorie. Mais vu le temps pourri qu'on est en ce moment, c'est peut-être le moment ou jamais pour écouter ce très grand chanteur, d'autant plus qu'un nouvel album est en préparation. Mais d'abord, on va écouter un de ses tubes, Eric.
Tout à fait. Cette chanson, c'est certainement celle qui est la plus connue de cet auteur qui est pourtant aujourd'hui à son 8e album. C'est sorti en 1995. C'est une chanson qui s'appelle Where the Wild Roses Grow. Et c'est un duo assez inattendu avec une chanteuse pop australienne comme lui, qui est Kylie Minogue.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace.
Eric Paillet, vous nous rappelez qui est Nick Cave ?
Alors Nick Cave, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être certains ont aperçu cette espèce de silhouette, de grande figure d'un espèce de chanteur un peu gothique australien. Nick Cave est né en effet en Australie, il vit maintenant à Londres. Et c'est vraiment un personnage assez légendaire dans le monde du rock, parce que quand il raconte par exemple son enfance, il vous dit qu'il a passé son enfance dans le désert australien à chasser avec ses copains les lapins atteints de myxomatose et leur éclater la figure à coups de pierre. Voilà, déjà ça donne un peu l'ambiance. Nick Cave, l'ensemble de sa carrière, c'est donc 8 albums.
Vous devez nous le rendre sympathique, hein.
Oui. Non, mais je vais commencer par le côté un peu, voilà, parce que c'est un personnage sombre qui a une certaine complaisance aussi à jouer sur cette figure sombre.
Mais c'est un personnage tragique aussi.
C'est un personnage tragique. C'est comme je vous dis, c'est 8 albums, 13 overdoses et 6 cures de désintox. Il paraît qu'il est, ça y est, maintenant il est clean. Une histoire tragique. Il a perdu un fils aussi dans des circonstances assez dramatiques. Mais ce que l'on retient de lui, c'est en effet cet univers, comme vous l'entendez sur cette chanson. Alors cette chanson, elle est très jolie, très mélodieuse, mais je l'ai pas choisie par hasard. C'est qu'elle est très révélatrice de son univers. C'est sorti d'un album qui s'appelle Ballad Murders, qui racontait huit histoires de meurtre. Et ce duo qu'on vient d'entendre entre Kylie Minogue et lui, ce sont deux amants, mais sur un crime passionnel, puisque Kylie Minogue dit à un moment que la dernière chose qu'elle voit de son amant, c'est sa main avec cette pierre. Voilà, puisque c'est pareil, elle va se faire massacrer par lui. Donc voilà, l'univers de Nick Cave, comme vous le disiez, il y a une saisonnalité. Moi, je déconseille fortement d'écouter Nick Cave un dimanche de novembre quand il pleut. Ou alors c'est vraiment, vous avez des amis qui vous disent « Tiens, tu es vraiment très joyeux, c'est assez étrange, donc là vous avez droit à une chanson.
» Mais sinon, quand même... il faut plutôt l'écouter quand tout va bien, c'est
quand
ça ?
Quand tout va bien, voilà. Et
Bah, tout va bien en ce moment.
Bah oui. Alors j'essaie de décrire un peu toujours Kenny Kev. Moi je dirais qu'il faudrait mettre dans un checker Tom Waits, Lou Reed, Leonard Cohen, Iggy Pop, et puis peut-être aussi ce pasteur mystérieux de La Nuit du Chasseur qui était joué par Robert Mitchum. Vous mettez tout ça et vous avez une vague idée de Kenny Kev. C'est un voilà ce grand dandy du rock australien. Mais la nouvelle. Qui est assez étonnante, puisqu'on est sur les happy ends, c'est que voilà, en ce monde sans espoir de Nick Cave, il semblerait que son prochain album, les critiques nous disent, c'est Nick Cave, mais qui aurait laissé rentrer la lumière. Alors, l'album est pour l'instant assez mystérieux, parce qu'il sort fin août, mais il y a déjà
deux titres
qui sont sortis. Et Nick Cave le dit lui-même, il dit « J'espère que cet album aura le même effet sur les auditeurs que sur moi, il explose les enceintes. C'est un disque compliqué, mais profondément et joyeusement contagieux. » Vous avez bien entendu dans la voix de Nick Cave ce mot « joyeusement ». Voilà, c'est vraiment la nouvelle de l'été. Il dit d'ailleurs « Les disques reflètent plutôt l'état émotionnel des compositeurs et des musiciens qui les jouent. Et je ne sais pas, il me semble, en écoutant cet album, que nous sommes contents. » Voilà, donc c'est toute la bonne nouvelle que je voulais vous partager, c'est que peut-être Nick Cave est content.
Once upon a time, a wild god zoo. All through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?
Et en studio, on discute de l'influence des différents musiciens de Nick Cave sur son état d'esprit. Donc là, ça va mieux, c'est parce que le guitariste a pris le dessus, c'est ça?
Non. Warren Ellis, c'est plutôt les claviers maintenant.
Le clavier a pris le dessus.
Et d'ailleurs, dans cet album, il faut noter la présence du bassiste de Radiohead, qui est Colin Greenwood.
Voilà, donc cet album, on le découvrira fin août, donc peut-être pour la reprise d'Effervescence.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Guillaume, la joie est enfin là, puisque là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une joie parfaite, pure, une liberté, une jubilation à être sur scène et à jouer. Vous nous emmenez à la Comédie Française, c'est pourtant pas le lieu le plus débridé.
Exactement.
De la planète parisienne,
c'est bien
mais
ça
quand
qui
même.
Est étonnant. C'est bien ça qui est étonnant, c'est une comédie musicale sur la scène de la Comédie Française.
Normalement, à Paris, c'est plutôt au Châtelet, les comédies musicales.
Tout à fait. En fait, la troupe de la Comédie Française, enfin une partie de la troupe, a décidé de faire une comédie musicale racontant la vie de la Comédie Française. Ça s'appelle « Mais quelle comédie ?» point d'exclamation. Et c'est extrêmement drôle. C'est assez étonnant en termes de chant et de danse, dont on n'attendait pas forcément de la part des comédiens français. C'est un petit côté fête de fin d'année. Avec quand même on n'est pas précisément à Broadway ou sur une scène londonienne, ils maîtrisent quand même pas tous les compartiments du jeu, mais c'est extrêmement drôle, extrêmement sympathique. Ça dure 1h45. On sort de là, on est de bonne humeur. Vraiment, c'est pour moi, c'était une grande surprise. Alors en fait, c'est la reprise d'un spectacle qui avait été fait à la sortie du Covid, à la sortie du confinement, parce que pendant le confinement, ils avaient fait un certain nombre de choses par vidéo, en visio, et donc notamment des choses comme ça, un peu pour faire rire, et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi ne pas en faire un spectacle. Et donc ça se joue jusqu'au 21 juillet, il reste quelques places. Et je suis sûr que ce spectacle sera repris parce que c'est vraiment jubilatoire. Enfin, je sais que ce mot est un peu galvaudé, mais vraiment.
On sent de la joie à être sur scène.
Ah oui, et être dans la salle. Enfin, et encore une fois, du début à la fin du spectacle, je me disais, mais je suis à la Comédie Française. Je suis dans la salle Richelieu, l'endroit où. Petit, j'ai écouté du Racine et du Corneille. Voilà, et là, il y a des gens qui chantent, qui dansent. Le final, c'est un air tiré de La vie de Brian de Monty Python, Always Take the Bright Side of Life, toujours prendre le bon côté de la vie, ce qui, effectivement, dans le contexte du moment et du thème de l'émission, va très bien. Voilà, c'est vraiment très, très joyeux.
Allez, on écoute quelques bribes.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à la Comédie Française. Vous nous avez tellement manqué.
Guillaume, à qui doit-on ce spectacle ?
Alors, la conception et la mise en scène sont de Serge Bagdasarian et Marina Hens. Et la direction musicale, c'est Vincent Leterme et Benoît Urbain.
Alors, on change complètement d'univers. On se retrouve derrière notre écran, derrière Netflix, pour regarder du sport. Merci Eric Payet, soyez bienvenue dans l'effervescence.
Oui, oui, c'est assez étonnant de ma part. Voilà, ceux qui me connaissent... N'imaginez pas qu'un jour, je dirais, regarder du cyclisme. Pour moi, le Tour de France, c'est ce rendez-vous manqué avec les vacances. Vous êtes jeune écolier, enfin du temps libre, et vous allumez la télé et il y a ces vélos toute la journée. Et
ces prises de vue magnifiques sur la France.
Alors, les prises de vue magnifiques, ça, c'est vraiment la richesse du Tour de France.
Vous êtes un homme de télévision quand même.
Ouais, et je sais combien à France Télévisions, ce moment est extrêmement fort pour l'ensemble des équipes qui sont mobilisées pour le transmettre et justement donner des belles images et faire découvrir le patrimoine, parce qu'il y a aussi à chaque fois
cet enjeu-là.
D'ailleurs, je lui rends hommage. C'est une script avec qui j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Cathy Soie, qui faisait ça bénévolement tous les ans. Elle faisait la Bible du Tour de France, c'est-à-dire qu'elle notait tous les lieux à travers qui était tout au long du Tour de France, et les commentateurs du monde entier reprennent les textes de Cathy Soie, qui est une script, voilà, qui n'a jamais touché un centime, mais qui a fait ça par passion. Donc voilà,
salutations.
Je lui transmets. Donc
là, on est sur Netflix.
Hein. Et là, on est sur Netflix. Alors, en fait, Netflix, depuis quelques années, ils ont créé un genre assez particulier.
Une nouvelle recette.
Le documentaire autour du sport. Et notamment pour des sports, moi, qui m'ont toujours laissé de marbre. Ça a commencé avec la Formule 1. La Formule 1, c'est pareil. Les vroom vroom des voitures pendant des heures.
On salue Melchior Gormand chez nous, qui est un fan de Formule 1.
Et en fait, ils ont créé Formula One. Et à travers Formula One, on a compris enfin les questions, enfin, pour les béotiens comme
moi. Est-ce que c'est du sport, la Formule 1?
C'est la Formule 1, c'est du sport, c'est exigeant. Et c'est surtout, il y a de la stratégie, il y a des enjeux humains, technologiques, des stratégies incroyables. Donc voilà, tout d'un coup, on découvre l'envers des choses. Et là, pour le Tour de France, moi qui pensais aussi que c'était simplement des gens sur des vélos qui essayaient de pédaler le plus fort, j'ai découvert qu'il y avait aussi des enjeux d'une équipe, une stratégie, qu'il y avait des leaders, il y avait des sprinteurs, on abordait chaque étape avec des plans pour essayer de déjouer, et ça devient tout d'un coup un presque intéressant, voire passionnant. Peut-être que je vais...
C'est ça, peut-être que vous allez regarder le Tour de France.
J'ai peut-être regardé une étape ou deux cette année, mais moi, je me suis laissé avoir parce que j'ai regardé ça avec pas beaucoup de conviction. Et puis, j'ai arrêté au bout de 6 épisodes, donc c'est que ça prend.
Et il y a déjà 2 saisons.
Content d'être en saison 2 ?
C'est sûrement l'épreuve la plus difficile au monde.
It's cutthroat, savage.
So not here to make friends with other teams.
Everybody should kill somebody to win the stakes.
I love the risk, but it's not necessarily in your control.
Ouais, chute dans le peloton.
C'est clair que ça va piquer, ça va faire très mal. Hein.
Nous allons nous lever et respecter une vraie minute de silence.
Allez, un dernier mot.
Oui, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, en fait, le procédé, c'est toujours d'avoir des caméras qui sont collées au plus près des acteurs, et donc on rentre dans leur intimité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sans doute ce qu'on a perdu avec Formula One, c'est qu'à la fin, les écuries ont vraiment compris la communication qu'il y avait autour de la série, donc tout est un peu pipeau aujourd'hui dans Formula One. Là, il y a encore de la spontanéité, on vit des vrais moments très humains avec les directeurs d'équipe, avec les coureurs. Voilà, il faut en profiter.
Ça s'appelle Tour de France au cœur du peloton, il y a 2 saisons, et c'est donc sur Netflix.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Éric Faye, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes écrivain, vous avez publié de nombreux livres, des romans, des essais, des carnets de voyage, des nouvelles. Mais si on vous reçoit aujourd'hui dans Effervescence, c'est que vous avez fait vos premiers pas en littérature aux côtés d'Ismaël Kadare, le grand écrivain albanais dont on vient d'apprendre la mort. Vous avez écrit plusieurs livres autour d'Ismaël Kadare, un livre d'entretien avec lui, et en France, vous avez accompagné la publication de ses œuvres. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec lui ?
Mais c'est d'abord une rencontre de simple lecteur. J'avais 26 ans et j'ai lu un de ses livres les plus forts, qui a ramené Doruntín. Et ensuite j'ai voulu à tout prix le rencontrer et écrire un livre sur lui. J'étais simple journaliste et je lui ai écrit à l'Union des écrivains en 1990 et il m'a répondu par un télégramme par lequel il me disait être d'accord pour me recevoir à Tirana. Et 2 mois plus tard, j'étais à Tirana pour réaliser des entretiens avec lui et pour écrire un essai qui est paru par la suite chez José Corti.
Qu'est-ce qui avait fasciné le jeune homme que vous étiez alors ?
Ah, une sorte de... Une dimension qu'on ne trouvait pas dans la littérature française, quelque chose à la fois qui mêlait à la fois le réalisme, le fantastique, le tragique et le grotesque dans un même ensemble. Je trouvais que les différents ingrédients de cette recette littéraire étaient particulièrement réussis et j'étais surtout très intrigué par le fait que dans un pays dont le régime était stalinien encore à la fin des années 1980, pouvait s'épanouir une œuvre aussi libre. Il y avait une liberté intérieure qui m'époustouflait, une telle qualité littéraire sous un régime qui encasernait les artistes et notamment les écrivains, ça me paraissait relever du prodige et j'ai voulu enquêter sur ce mystère.
Alors, quel homme était Ismaël Kadare ?
Mais c'était un homme qui m'a donné les leçons de littérature les plus extraordinaires que j'ai jamais reçues, dans le sens où c'était non seulement un bon écrivain, un excellent écrivain, mais aussi un homme qui avait une vision du monde, c'est-à-dire qu'il relisait le phénomène humain et l'histoire contemporaine à la lumière des mythes antiques, grecs notamment, et aussi à la lumière des légendes balkaniques, ce qu'on voit au fil de son œuvre. Et il me semblait que, à la différence de la plupart des écrivains, il était aussi un philosophe, un penseur comme l'Antiquité en concevait des hommes qui étaient à la fois des savants, des philosophes, des écrivains, un penseur complet.
Quand on évoque Ismaël Kadare, Éric Faye, on pense aux écrivains de la liberté, de tous ceux qui ont fait le choix de l'écriture pour résister à des régimes de fer, vous y faisiez allusion, et on fait souvent le parallèle avec le tchèque Václav Havel. Est-ce que c'est justifié ? Quel était son rapport à la dictature d'Enver Hoxha ?
C'était, vous parlez de la Tchécoslovaquie de Václav Havel, c'était une dictature très différente. C'est-à-dire c'était une dictature communiste post-stalinienne, c'est-à-dire dans laquelle des dissidents réussissaient malgré la dictature à exprimer, à pouvoir avoir une activité de dissident. Alors qu'en Albanie, c'était tout simplement impossible. C'était comme sous Staline dans les années 1930 en Union soviétique. Il fallait ruser. Donc c'était un homme qui qui ne pouvait pas parler directement de la réalité albanaise. Il ne pouvait pas être, à la différence de Solzhenitsyn sous Khrouchtchev, il ne pouvait pas parler du système communiste, d'internement, des camps, etc. Il devait trouver des moyens par la fable, par la ruse, et notamment... En changeant d'époque, en parlant de l'Empire ottoman, il pouvait dire des choses sur la dictature d'Enver Hoxha. Mais il fallait passer par des époques historiques différentes, ou par les mythes, ou par la fable, parler de Prométhée pour parler de la dissidence, etc. Il fallait impérativement, et malgré ses ruses, parfois le régime réussissait à le coincer, à interdire certains de ses livres, parce que bon, au bout d'un certain temps, il n'était pas dupe.
En Albanie, un deuil national a été déclaré à l'annonce de sa mort. Qu'est-ce qu'il représente pour ce pays ?
Ah ben c'était la grande voix qui a sorti le monde albanophone, que ce soit en Albanie ou au Kosovo ou en Macédoine du Nord, qui a sorti le monde albanophone de l'inconnu. Vous savez, ces pays des Balkans sont très peu connus. Et quand il y avait le régime d'Enver Hoxha, le pays était coupé, non pas du monde, puisqu'ils avaient toujours des alliés communistes, mais ils étaient coupés de l'Europe occidentale. Et pour eux, ça a été leur meilleur ambassadeur, celui qui donnait une image artiste, une image pacifique, une image glorieuse de l'Albanie à la différence d'Enver Hoxha.
Éric Fay, je pense que vous n'allez pas me contredire, j'ai l'impression que Ismaël Kadare, c'est bien plus qu'un écrivain albanais, c'est un très grand écrivain européen.
Oui, mondial. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent de grandes pointures comme Mario Vargas Llosa. C'est quelqu'un qui aurait mérité d'avoir le prix Nobel de littérature. Ça aurait été bien que le monde albanophone, qui représente dans les 6 millions de locuteurs, soit couronné grâce à ce Nobel-là. Oui, bien sûr, c'était un écrivain de dimension mondiale.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu le prix Nobel ?
Oh, mais pourquoi beaucoup d'écrivains comme Kundera, Borges n'ont pas eu le prix Nobel ? Parce qu'il n'y en a qu'un par an et qu'on ne peut pas couronner tous les... Je ne sais pas, c'est à l'Académie de Suède qu'il faut demander.
Je reviens à l'Europe. Est-ce qu'il se sentait européen et de quelle Europe appartenait-il pour lui ?
Alors tout à fait, il se sentait très européen. J'ai suivi hier à la télévision albanaise c'est la cérémonie d'hommage. Et c'était très intéressant parce que au-dessus du cercueil avait été représenté non pas l'aigle bicéphale albanaise, mais la silhouette de Mère Teresa, qui était une Albanaise du Kosovo, et Mère Teresa main jointe avec un chapelet dans les mains. Et c'était très important parce que lui qui porte un prénom musulman, avait toujours pensé que l'Albanie devrait, tout comme elle l'avait été au Moyen-Âge, se convertir massivement au christianisme. C'était pour lui un talisman, un gage d'appartenance à l'Europe dans son entier, à l'Europe occidentale notamment. Il a toujours été partisan, évidemment, d'un rapprochement de l'Albanie avec le reste de l'Europe. Entre l'Albanie et le sud de l'Italie, il n'y a qu'une centaine de kilomètres, d'ailleurs.
En 1990, il a demandé l'asile politique à la France. Pourquoi la France ? Qu'est-ce que représente notre pays pour lui ?
Oh, ça a été une longue histoire d'amour depuis qu'il a, son premier traducteur, Youssouf Rioni, avait passé sa jeunesse, son enfance en France, puisque son père était ambassadeur d'Albanie en France. Et ce vieux traducteur avait enseigné à Ismaël Kadare le français, et ensuite avait établi la première traduction en français du général de l'armée morte. Et c'est par ce livre-là que l'histoire d'amour entre Cadaré et la France a commencé, c'est-à-dire dès 1970 chez Albin Michel a été publié Le général de l'armée morte. Et ensuite, je pense que les Français ont été, après le monde albanophone, bien évidemment, les plus fervents lecteurs de son œuvre.
Éric Fay, je voudrais que maintenant vous nous aidiez à entrer dans l'œuvre d'Ismaël Cadaré. Qu'est-ce qu'on peut dire de son écriture ?
Oh, une écriture très poétique, très imagée, très libre, qui englobe, comme je le disais, toutes les dimensions de la littérature, mais c'est une écriture très métaphorique, très bien rendue par ses différents traducteurs depuis les années 70. Une écriture qui plonge sans cesse dans l'univers des mythes, et qui en remonte avec des images qui correspondent au berceau de la culture européenne, la Grèce antique. Ensuite, une écriture qui, dans un même paragraphe, réussit à emprunter au tragique, c'est-à-dire que Shakespeare et Eschyle étaient ses grands maîtres, mais aussi à l'esprit grotesque, à l'esprit de Don Quichotte. Il appréciait énormément aussi Cervantes. Et pour lui, la bonne littérature, c'était le mélange du grotesque et du tragique en permanence, ce qu'on voit bien dans certains romans comme Le Concert.
Est-ce qu'il y a un fil qui tisse tous ces livres ?
La lutte de l'homme pour la liberté. C'est cet esprit prométhéen qui est pour moi prépondérant chez lui, et une forme de lutte de l'homme contre l'oppression par le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, puisqu'il parle du pouvoir chinois, du pouvoir dans l'Égypte ancienne. Mais il a vécu pendant 45 ans sous la férule stalinienne, et il a engendré une des œuvres les plus libres au monde. Et c'est en ce sens-là, il a montré à quel point l'écrivain pouvait savoir résister aux pressions par la ruse, par des concessions à certains moments, par des compromis, mais en se disant toujours, ce qui compte chez un écrivain, c'est ce qui restera de lui, c'est son œuvre.
Pourquoi, en 2024, faut-il lire Ismaël Cadaré ? Est-ce qu'il a encore des choses à nous dire ?
Je crois que tout bon écrivain mérite d'être lu. Oui, je ne sais pas, je peux pas vous dire en 2024 en quoi il est essentiel de le lire, mais si on prend par exemple un de ses livres les plus importants, pour moi c'est Le Palais des Rêves, qui a été publié, si l'on peut dire, au début 1982, et qui a été presque aussitôt interdit par les autorités. C'est un livre essentiel, très orwellien, contre toutes les formes de tyrannie. Et au moment où on voit que la démocratie est menacée, même aux États-Unis, et qu'elle progresse dans certains pays de l'Est européen, voire, pourquoi pas, en France, je crois que lire des romans comme Le Palais des Rêves est toujours d'actualité.
Est-ce qu'il y a un livre pour commencer à entrer dans l'œuvre d'Ismaël Cadaré ?
On peut commencer à le découvrir avec plusieurs, mais je pense notamment à son roman Avril brisé, qui nous transporte dans le monde du code coutumier, de la vendetta, qui rappelle certaines nouvelles de Prosper Mérimée. Et ce code coutumier qui a longtemps survécu face à l'oppression ottomane et qui était une sorte de code pénal qui faisait face à l'absence d'état de droit sous les dictatures successives qu'ont connues les Albanais, depuis les Ottomans jusqu'au régime stalinien. Et on est plongé dans sur les hauts plateaux de l'Albanie centrale, dans une région plutôt catholique, là, au début du XXe siècle, et où on voit justement, c'est ce qu'étaient ces règlements de compte et quel était le code d'honneur des Albanais, mais aussi des habitants d'une grande partie du monde méditerranéen à l'époque.
Et vous, Eric Fay, quel est le livre qui vous a le plus touché dans la bibliographie d'Ismaël Kadaré, le livre dont vous sentez le plus proche personnellement?
Je crois que si ma vie littéraire a basculé et m'a tourné vers l'œuvre d'Ismaël Kadaré, je le dois à un très court roman qui s'appelle « Qui a ramené Duruntin ?». C'est une sorte de polar métaphysique médiéval qui se passe dans l'Albanie du XIVe siècle et qui est une sorte de conte fantastique sur la notion de la parole donnée, qui est la Bessa, qui est très, très... une dimension cardinale pour dans le cœur des Albanais et des Balkaniques. Et cette parole donnée, elle est assumée même par un mort, Constantin, qui se relève de la tombe pour ramener sa sœur Doru à sa famille. Et ça se lit comme un polar. Je conseille à tout le monde la lecture de ce livre qui fait une centaine de pages et qui après décide si un lecteur, une lectrice aime ou non cette œuvre.
Eric Fay, qu'est-ce que vous devez à l'œuvre d'Ismaël Kadaré?
Oh, ça, c'est pas à moi de le dire, mais je crois qu'il m'a... Comme je le disais, il m'a donné au fil des entretiens en 1990 à Tirana et ensuite, après son départ en exil à Paris, les leçons de littérature les plus extraordinaires que j'ai jamais écoutées. Et il m'a ouvert l'esprit et il m'a, je dirais, appris à quel point l'écrivain peut être libre. Sortir des carcans de son époque, de la pensée d'une époque, pour s'ouvrir à des dimensions qu'il ne soupçonne pas. Et il m'a appris aussi que la liberté, quand on est artiste, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Ça vient pas tout seul vers vous. C'est pas l'époque qui doit écrire vos livres, c'est vous qui devez écrire vos livres. Et ça, il me l'a appris. Et ça a l'air de rien, mais c'est une posture essentielle. Quand on en prend conscience, on essaye de s'affranchir de toutes les dictatures. Aujourd'hui même, on est en France, dans un pays très libre, mais il y a une forme de, comment dire, c'est pas de dictature, mais de poids, des habitudes, de ce dont on parle, de ce dont il faut parler. Et si on réussit à s'affranchir de cela, là, on devient libre. Et là, on devient original, là, on trouve sa propre voie. Voilà ce qu'il m'a appris.
Eric Fay, vous nous lisez quelques lignes d'Ismaël Kadaré?
Le tout début, le chapitre premier du Général de l'armée morte, donc son premier roman paru en France, qui date des années 1960. Une pluie mêlée de flocons de neige tombée sur la terre étrangère. La piste de béton, les bâtiments, les gardes de l'aérodrome étaient trempés. La neige fondue baignait la plaine et les collines alentour, faisant luire l'asphalte noir de la chaussée. En toute autre saison, cette pluie monotone eût fait l'effet d'une triste coïncidence. Le général, lui, n'en était guère surpris. Il venait en Albanie afin d'assurer le rapatriement des restes de ses compatriotes tombés aux quatre coins du pays pendant la dernière guerre mondiale.
Eric Fay, je vous ai demandé, quand on a préparé cette émission, si Ismaël Kadaré était mélomane. Vous m'avez dit non, pas vraiment, personne n'est parfait. En revanche, il y a quelqu'un de très proche de lui qui était un grand musicien.
Teddy Papavrami a été après la mort de Youssouf Rioni en 2001, c'est ce Teddy Papavrami est albanais d'origine. C'était un prodige et avec sa famille, il a pu voyager à l'étranger. Et au cours d'une tournée, ils sont restés en Occident. Et depuis, il a continué une brillante carrière internationale de violoniste. Et il a été contacté après la mort de Youssouf Rioni pour lui succéder comme traducteur. Voilà.
C'est lui qui a traduit les derniers livres d'Ismaël Kadaré.
Depuis 20 ans, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Eric Fay, de nous avoir aidé à rentrer dans l'univers d'Ismaël Kadaré. On va se quitter en écoutant quelques notes du violon de Papavrani. Merci beaucoup.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et on approche de la fin de cette émission, et je ne voulais pas vous quitter sans glisser dans vos oreilles une petite pépite musicale dégotée par notre ami Pierre-Henri Paget. C'est une reprise de Göttingen, le titre de Barbara, chantée par Arthur Teboul et avec, au piano, Baptiste Trottignon. Vous allez voir, c'est magnifique.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes, et là, nos grises de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen.
Arthur Teboul, Feu Chatterton et Baptiste Trottignon pour cette chanson Göttingen. Voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence cette année, une fin heureuse. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce happy end. Il y avait comme chroniqueur Éric Payet et Guillaume Goubert. À la réalisation, c'était Pierre-Henri Paget. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures effervescentes. Je vous espère nombreux. Nouveau chrono de diffusion, je ne sais pas exactement quand vous nous écouterez, peut-être le vendredi à 20h je crois. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr, sur notre application, sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pouvez même pendant l'été réécouter les plus belles émissions d'Effervescence. Voilà, merci du fond du cœur à tous et à toutes. Et je ne vous quitte pas sans glisser dans votre oreille une citation. Elle est de Guillaume Goubert. Enfin, c'est Guillaume Goubert qui me l'a soufflée. Elle est d'Alberto Giacometti. Je cherche en tâtonnant à attraper dans le vide le fil blanc du merveilleux. Bon été à tous.